C'était Pearl Bailey dans l'adaptation par Oscar Hammerstein de Carmen, sous le titre de Carmen Jones, Beat Out That Rhythm on a Drum, et au drum justement, un des grands grands du jazz, Max Roach, qui apparaît d'ailleurs à l'écran. Alors, Preminger.
Preminger, on en a longuement parlé sur Fréquence Paris Pluriel, puisque j'avais consacré 2 heures à Otto Preminger cette année. Ce que je peux dire du Carmen Jones, c'est que je crois que ce film qui est entièrement interprété par des Noirs, ce qui intéresse Preminger, c'est peut-être l'universalité du Carmen de Bizet, et comment, à partir de cette version noire, en fait, il rejoint tout à fait un thème universel.
On lui a un petit peu reproché d'utiliser des stéréotypes noirs pour les transposer dans Carmen, mais moi je pense qu'au contraire, c'est l'occasion d'une liberté. Et d'une affirmation de liberté à travers la passion qui correspond bien à...
Ça déghettoïse, je dirais, complètement.
Oui, ça correspond bien finalement à la Carmen d'origine.
Tout à fait.
Cette sorte d'affirmation par la musique, par le corps.
Du besoin d'émancipation.
Il faut dire que le film a été complètement interdit en France pendant des années, jusqu'à ce que Carmen tombe dans le domaine public, parce que les héritiers, me semble-t-il, soit de Bizet, soit de Meillac et Alévi, je ne me rappelle plus, s'étaient opposés à ce qu'il soit montré en France. Mais ça n'a fait que retarder notre plaisir.
C'était une version, c'était une vision chauvine des choses, puisque la Carmen, je pense, appartient à l'humanité, non pas à la France.
Eh bien, nous la voilà rendue.
Preminger en fait la preuve.
Nous restons dans le domaine d'Oscar Hammerstein, à qui nous devons d'ailleurs aussi la jolie valse de Carousel qui nous sert de générique, pour Le Roi et moi, l'une de ses comédies musicales les plul célèbres, qui a fait connaître Yul Brynner au public de Broadway avant d'en faire une vedette internationale. Il s'était fait raser le crâne pour jouer le rôle du roi de Siam, et il l'a gardé rasé pendant une grande partie de sa carrière. Voici la très délicieuse leçon de polka que l'institutrice Deborah Carr donne à Yul Brynner dans Le Roi et moi.
You're young, at your first dance, and you're sitting on a small gilt chair, with your eyes lowered, terrified that you'll be a wallflower. And suddenly you see two black shoes, a white waistcoat, a face. It speaks. We've just been introduced. I do not know you well, but when the music started, something drew me to your side. So many men and girls are in each other's arms. It made me think we might be similarly occupied. Shall we dance? On a bright cloud of music, shall we fly? Shall we dance? Shall we then say goodnight and mean goodbye? Or perchance, when the last little star has left the sky, shall we still be together with our arms around each other? And shall you be my new romance? On the clear understanding that this kind of thing can happen, shall we dance? Shall we dance? Shall we dance?
Why do you stop? You dance pretty, go.
Oh, Your Majesty, I didn't realize. After all, I'm not a dancing girl. In England, no woman would dance alone while a man is looking at her.
But you will dance with strange men, holding hands, etc.
Yes, but not always a stranger, usually a very good friend.
Good, then we'll dance together. You show me. Teach.
Well, it's quite simple, a polka. You count 1, 2, 3, and 1, 2, 3, and 1, 2, 3, and... Shall we dance?
1, 2, 3, and...
On a bright cloud of music, shall we fly?
1, 2, 3, and...
Shall we dance?
1, 2, 3, and...
Shall we then say goodnight and mean goodbye?
1, 2, 3, and...
Oh, perchance!
When the last little star has left the sky...
Shall we still be together with our arms around each other? And shall you be my new
romance?
On the clear understanding that this kind of thing can happen.
Shall we dance? Shall we dance? Shall we dance?
Now, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3.
something wrong. I know, I forget then. Next time I remember.
One, two, three, and 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 one
But it's not right.
Oh, yes, it is. You were doing beautifully, Your Majesty.
No, no. Not the way I see Europeans dancing tonight.
Yes, it was. It was just like that.
We're not holding two hands like this.
No. As a matter of fact...
Was a... Like this. Now?
Yes.
Come!
Et moi de Walter Lang, Deborah Kerr, doublée par Marnie Nixon, la grande doubleuse des années 50-60. On l'a juste entendu parler, l'actrice, entre les chansons, et Yul Brynner, qui lui chantait pour lui-même.
Dans... C'est un film que tu aimes beaucoup.
C'est un film que j'aime bien parce que le dosage entre les parties musicales et non musicales est parfaitement réalisé. L'interprétation est absolument admirable. Les deux acteurs sont merveilleux. Il y a aussi Rita Moreno qui fait la petite siamoise. Et il y a en particulier au milieu du film un fabuleux ballet chorégraphié par Jerome Robbins. Sur le thème de la case de l'oncle Tom, adapté version siamoise. Alors, Le Roi et moi, a encore un remake, encore une adaptation de Broadway à gros moyens. Ça va devenir maintenant l'un des passages obligés du genre, qui, sous forme de série, commence à s'épuiser un petit peu. Nous allons en avoir un autre exemple avec l'adaptation très retardée d'un succès des années 40, Pal Joey, qui était la pièce qui avait révélé Jane Kelly sur scène en 1940, je crois. Et elle ne sera portée à l'écran qu'en 1957, dans une version très édulcorée sur le plan du scénario comme des lyrics, mais qui bénéficie de l'incomparable interprétation, non pas tellement, bien qu'elle soit remarquable, de la blonde et de la rousse qui donnent leur titre au film, leur titre au film en français,
c'est-à-dire Kim Novak
et Rita Hayworth, mais surtout Frank Sinatra dans l'un de ses meilleurs rôles, le rôle d'une sorte de voyou qui manipule les femmes pour arriver à ses fins.
Ça lui va bien d'être macro.
Ça lui va assez bien. En l'occurrence, Rita Hayworth arrive dans le nightclub désert où Sinatra accepte de lui chanter une chanson directement adressée à elle. The Lady is a Tramp, donc quasiment une insulte, mais elle le prendra comme une tentative de séduction, bien entendu.
She gets too hungry for dinner at 8. She likes the theater, never comes late. She'd never bother with people she'd hate. That's why the lady is a tramp. Doesn't like crap games with barons and earls. Won't go to Harlem in ermine and pearls. Won't dish the dirt with the rest of the girls. That's why the lady is a tramp. She likes the free, free fresh wind in her hair. Life without care. She's broke, but it's hope. Hate California. It's cold and it's damp. That's why the lady is a tramp. She gets far too hungry to wait for dinner at 8. She adores the theater and she doesn't arrive late. She'd never bother with people she'd hate. That is why the lady is a tramp. Won't have a dice game with any barons and earls. She will never go up to Harlem dressed in ermine and pearls. Won't ditch the dirt with all the other girls. That is why the lady is a tramp. She loves the free, free fresh wind in her hair. Life without care. She's broke. California, 'cause it's so cold and so damp. That's why the lady, that's why the lady, that's why the lady is a tramp.
Alors on va écouter ensuite un extrait d'un film qui est admis. Enfin, dans ma petite vidéothèque personnelle, c'est un de ceux que je regarde le plus souvent.
Un de tes films fétiches,
disons-le. Un de mes petits films fétiches, c'est Pajama Gang, pique-nique en pyjama. Voilà, c'est la classe ouvrière qui chante et danse. C'est une histoire syndicaliste, quasiment.
C'est l'histoire d'une grève dans une usine de pyjama pour 7 cents et demi d'augmentation.
Tiré d'ailleurs de la l'adaptation de la pièce de George Boat, 7 and a half cents. Et c'est un film co-réalisé d'ailleurs par George Boat et Stanley Donen. Alors on va écouter une comédienne qui a à mon avis pas assez souvent été mise en valeur et qui est pourtant une comédienne qui mériterait d'être visitée, c'est le cas de le dire. C'est Doris Day qui joue très bien la syndicaliste et qui, je trouve ce film est extrêmement juste sur la classe ouvrière américaine en fin de compte, parce que chez Donen il y a une observation très juste de ce qu'est le milieu ouvrier, même si la stylisation de la comédie musicale force évidemment à des raccourcis. Cela dit, je trouve que le thème du travail est un thème absolument idéal pour la chorégraphie de Bob Fosse, parce qu'il y a du rythme dans la chaîne, malheureusement.
Oui, et puis c'est aussi, à mon avis, c'est une sorte aussi de métaphore sur ce qu'est la collaboration dans une comédie musicale. Et c'est aussi un film, en quelque sorte, on peut le voir comme un décalque du travail pour aboutir à un spectacle. Mais
absolument.
Bon, c'est un film très riche.
Alors là, on va entendre un duo, alors que le film peut-être est surtout marqué par son aspect collectif, justement. Tu soulignais l'aspect d'équipe, travail d'équipe. Dans une usine, il y a le travail d'équipe, et dans un film musical aussi.
Et justement, il y a une sorte de contrepoint entre l'histoire collective, où tout le monde s'entend assez bien, et un conflit amoureux entre la syndicaliste et le contremaître, joué par John Raitt. Dans une de ses chansons, dont les Américains raffolent, Irving Berlin en a écrit plusieurs, c'est des chansons de compétition où un homme et une femme en rajoutent pour dire c'est moi qui peux te détester le plus ou c'est moi qui peux t'aimer le plus. There once was a man, Doris Day, John Raitt.
Tell me,
I love you more than all the heroes in all the history books in the world.
Tell me,
what a woman, I'll tell you. There once a man who loved a woman. She was the one he slew a dragon for. They say that nobody ever loved as much as he but me. I love you more.
Tell me!
And there once the man who loved a woman. She was the one he gave his kingdom for. They say that nobody ever loved as much as he but me. I love you more. My love love is a giant, fierce and defiant. But how can I prove it to you? Ain't got no kingdom, no dragon to back up my bragging. How can I show what I would do? I only know there once a man who loved a woman. She was the one he ate that apple for. They say that nobody ever loved as much as he but me. I love you more.
Tell me.
There once was a woman who loved a man. He was the one that she took poison for. They say that nobody ever loved as much as she but me. I love you more. There once was a woman who loved a man. He was the one she swam the channel for. They say that nobody ever loved as much as she but me. I love you more. My love's meteoric, merely historic, a whirlwind, a cyclone on wheels. It rocks the whole solar plexus of vigor and Texas. I just can't tell you how it feels. I only know there once was a woman who loved a man. Loved him enough to cause the Trojan War. They say that nobody ever loved as much as she but me. I love you more, 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 more.
More than a hangman loves his rope.
More than a dope fiend loves his dope.
More than an Indian loves his scalps.
More than a yodeler loves his ounce.
More.
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 More than more. Once a
man
who loved a woman.
Loved a man.
She was the one he slew
a
dragon for. They say that nobody ever loved as much as she but me. I love you more. I love you more.
Très réjouissant.
Doris Day, John Raitt, Picnic en pyjama, Stanley Donen et George Abbott.
Oui, Donen est un des cinéastes probablement là, au cours de ses trois émissions sur la comédie musicale qui a dominé le genre, on peut le dire avec Minnelli, je crois que ce sont les deux cinéastes qui de très loin quand même dominent le genre. Et ce qui est étonnant à propos de Donen, c'est la palette très large qu'il a, de pouvoir passer donc d'une verve satirique, critique de la télé, critique du social, regard sur le monde du travail malgré tout à travers Pique-nique en pyjama, à des films comme par exemple un scénario minimal dans Give a Girl a Break, Donnez-lui sa chance, qui est un chef-d'œuvre absolu, qu'il réalise tout seul, sans Kelly, sans George Abbott, et qui est un film extraordinaire parce qu'il ne tient que par la mise en scène, tellement le scénario est minimum. Et je crois que Donen est un grand cinéaste.
Aussi citer d'autres films, Deep in My Heart.
Deep in My Heart, qui, à mon avis, bien que Donen, tu me le rappelais là hors antenne, n'aimait pas beaucoup ce film, je pense que c'est quand même une conception qu'a Donen de ce qu'est. Ce que sont les concessions nécessaires à faire au business. C'est un film dans lequel il affirme sa conception de l'art, à savoir à travers la vie de Rambert, qui était un auteur de chansons populaires et d'opérettes, comme Le Prince étudiant, etc. En fin de compte, on voit bien comment l'artiste a sa propre conception et comment cette conception doit transiger avec le système, doit faire des concessions avec le système. Et c'est peut-être exactement le sujet de ce qu'ont été les réalisateurs de comédies musicales, à savoir une conception du monde qui leur est personnel, une esthétique propre, mais qui devait aller quand même à la rencontre du public et de ce qu'était le désir des grandes compagnies.
Oui, et de la collaboration obligatoire avec
une équipe,
des tas de compétences et de talents différents. C'est justement d'ailleurs peut-être pour ça que le genre a commencé à décliner à partir du moment où les équipes se sont un petit peu effritées. Et c'est peut-être d'ailleurs ce que raconte Jerry Lewis dans The Patsy.
Alors, The Patsy est plutôt un film sur le show business que sur le, la comédie musicale, mais j'ai voulu peut-être finir cette trilogie sur la comédie musicale avec Jerry Lewis pour une raison simple. C'est que d'abord, Jerry Lewis et Dean Martin en duo ont été des moments importants de la comédie musicale, notamment à travers les films de Torog, de Tachlin.
Avec en face sur le mot comédie.
Là, vraiment, marqué très nettement comme comédie, mais avec des numéros musicaux, des claquettes, etc. Bon, les choses donc qui font la loi du genre. Dans De Patsy, qui est un film donc dirigé par Jerry Lewis et écrit par lui, puisque Lewis s'émancipe de cet aspect faire-valoir de Dean Martin à partir du moment où il prend les rênes de la caméra tout seul, donc à partir de The Errand Boy, de Bell Boy, Dingue du Palace, etc., qui sont, de mon point de vue, des chefs-d'œuvre. Et dans De Patsy, il fait une critique alors très virulente de ce qu'est le métier du show business et de ce que sont les vedettes montantes du rock'n'roll qui ne savent rien faire, ni chanter, ni rien. Et c'est l'apparition du playback qu'il critique violemment. Et Lewis, là, nous montre qu'en fin de compte, ce sont les requins de la finance qui décident d'un spectacle et plus du tout des artistes qui savent chanter, danser. Et il joue génialement celui qui, effectivement, est utilisé et qui utilisera ensuite ses financiers, parce qu'il va devenir le patron. Là, on est dans le milieu des requins. Et je crois que c'est peut-être un peu triste de finir cette évocation de la comédie musicale en disant, après tout, petit à petit, les choses ont été rongées par la finance. Mais il y a cet aspect-là, c'est-à-dire que les financiers ont utilisé le show business, le business, ont utilisé faut bien dire, des artistes qui ne savaient pas faire grand-chose. Les équipes se dissolvent, tu en as parlé. On n'a plus de gens qui savent ni chanter ni danser, tels que Judy Garland, Aster, Kelly. On n'a plus de décorateurs, on n'a plus...
Oui, et puis le système lui-même n'est pas prêt à prendre tous ces gens-là ou à en trouver d'autres et à les mettre sous contrat à long terme. C'est-à-dire, maintenant, c'est du coup par coup.
Absolument.
Right now.
And I always say, buying a record is like owning a possession. If it's yours, you can lose it.
Good. And now, kids, Stanley Belt will now mouth his newest recording, I Lost My Heart in a Drive-In Movie. Played a love scene in my car. I lost my heart in a drive-in movie.
Say, I bought her a hamburger, a cheeseburger, a potato chip. I wasn't a bit hungry, I just wanted a taste of it.
Gonna try to reach her each Friday night. Any double feature will suit me right. I love my heart in a drive-in.
Voilà, c'était donc Jerry Lewis essayant désespérément à faire des claquettes dans De Patsy, dont Jerry souffre douleur, qui est un film qui est une véritable gifle pour les milieux du business, du show business et du business, et qui peut-être indique donc effectivement ce moment où on essaye de fabriquer des gens qui savent danser, chanter et qui ne justement n'y arrivent pas.
Alors, dans ce cas-là, oui, parlons justement du business du genre, le musical fin des années 50. C'est devenu quoi ? C'est devenu que le système ne marche plus, donc ce qu'on essaie de faire, c'est prendre des paquets clés en main de Broadway, en les réalisant avec le plus de savoir-faire et de compétences possibles, c'est sûr. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois, ça va être des super productions sur lesquelles les compagnies vont tenter un peu le va-tout. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ça marche, c'est bon. Hein, West Side Story, Robert Wise et Jerome Robbins, My Fair Lady sont des succès. Mais à partir du moment où ça se met à ne pas marcher, un seul film peut carrément acculer à la faillite un grand studio parce qu'il y a une sorte de surenchère comme ça, de moyens. On a lancé Barbara Streisand dans Funny Girl et puis 2 ans après, elle ruine le studio avec Hello Dolly. C'est pas sa faute d'ailleurs. Mais c'est comme ça des immenses succès préachetés qui ne remplissent pas toujours leurs promesses et qui vont amener une sorte d'épuisement du genre. Alors parmi ces pachydermes, on peut extraire de jolis films. Il y a par exemple La Mélodie du Bonheur, qui était un succès foudroyant et qui a lancé définitivement Julie Andrews après Mary Poppins, et qui est un film que les critiques ont détesté parce qu'ils disaient que c'était à l'eau de rose, etc., mais qui mériterait d'être redécouvert parce que c'est un bon film, les chansons sont très belles, le scénario arrive à arrive à mêler une histoire anti-nazie. C'est l'histoire de la famille Trapp, la fameuse famille autrichienne qui doit fuir les nazis tout en faisant des tournées de chansons. Enfin bon, c'est à la fois le rêve confronté à une réalité pas toujours rose, et c'est une merveilleuse Julie Andrews que nous allons entendre ici dans My Favorite Things, une très belle chanson d'Oscar Hammerstein qui est devenue par la suite l'un des standards de jazz les plus joués au monde.
Raindrops on roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings, these are a few of my favorite things. Cream-colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles, wild geese that fly with the moon on their wings, these are a few of my favorite things. Girls in white dresses with blue satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes, silver white winters that melt into springs, these are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things, and then I don't feel so bad. On roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings, these are a few of my favorite things. Cream-colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles, wild geese that fly with the moon on their wings, these are a few of my favorite things. Girls in white dresses with blue satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes, silver white winters that melt into springs, these are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things, and then I don't feel so bad.
La fin de l'âge d'or de la comédie musicale, à la fin des années 60. Pourquoi ? Bon, plusieurs raisons. La fin d'un système, comme on l'a dit tout à l'heure, et aussi la fin d'une influence. La musique populaire, désormais, ne passe plus par le théâtre et le cinéma pour s'imposer, notamment aux jeunes générations, mais plutôt par le rock, par le 45 tours, et la radio et les concerts. Toute une série de causes qui amènent au déclin du genre.
Et puis alors, peut-être du point de vue strictement plus esthétique, je dirais l'effet télévisuel qui porte le public à aimer plutôt le vraisemblable ou le crédible, et qui fait que le cinéma de studio est abandonné parce que l'image devient de plus en plus naturaliste au détriment peut-être du réalisme, et que là on a les effets de l'abandon de l'image construite.
Manet, Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes the world go round, it makes the world go round. A mark, a yen, a buck, or a pound, a mark, a yen, a buck, or a pound.
Dans les années 70, la survie du genre musical va s'opérer à travers justement une série de mises en abîme, de réflexions sur le genre lui-même et sa mort éventuelle, mais justement qui va lui permettre de survivre et de renaître en quelque sorte, avec des films comme Cabaret de Bob Fosse, qui contient un véritable commentaire sur l'utilisation de la musique par rapport à un drame.
Je crois bien qu'on va peut-être pouvoir se quitter sur Cabaret, peut-être qu'un jour on se retrouvera pour la comédie musicale.
Voilà, donc en compagnie de Liza Minnelli et Joel Grey, nous vous disons au revoir et à bientôt.
Money, 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 money